Il nous faut absolument du fric.
Je trouve le fric un mot magnifique.
C'est vrai. C'est vrai.
Il virevoltant, moi, comme un oiseau magique.
C'est vrai. C'est vrai.
Moi, il m'en faut.
Il me donne l'impression d'être une aristo. Rien de trop beau. Je trouve le fric un mot magnifique.
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
Je trouve le fric une chose magnifique.
Je sais. Je sais.
Ça sert à tout, c'est merveilleux.
En effet. En effet.
Je trouve l'argent
une denrée que tout le monde peut dévorer. À chaque instant, je trouve l'argent un mot épatant.
C'est vrai. C'est vrai.
Allons-y.
Ces bandits utilisent le papier et l'encre réservé uniquement à l'impression de la monnaie. Oh, c'est donc ça. Finou. Les faux monnayeurs sont sur le point de monter une nouvelle opération. Il faut les arrêter avant qu'ils ne commencent à imprimer. Trouve oncle Gadget, je te rejoins bientôt.
Salut.
Voyons, colonel. Ne dites rien, colonel Kling.
Oh, soyez sérieux, Schultz. Vous arrivez là, les mains pleines de faux billets, et vous voulez que je me taise?
Voyons, colonel. Ils m'ont dit que leurs billets ne valaient rien du tout, alors.
Pas d'histoire. Où est-ce que vous avez eu cet argent?
Regardez cette baraque qui est là. Il y a des appareils pour les billets, des rames, des papiers, de l'encre, plein de choses. Moi, je crois qu'ils font la détente de la fausse monnaie. Ils ont choisi de faire ça ici parce que dans 5 ans de prisonnier, c'est plus sûr pour tout le monde, pas pour moi.
Et voilà, Tom et Jerry, l'inspecteur Gadget et la bande au Stalag 13 de Papa Schultz. Tout ça pour introduire le sujet de ce mois-ci qui est l'argent. Pour traiter ce sujet, on va aller en bas du Cred Rock et on a fait un entretien avec deux acteurs d'une vraie monnaie. Une vraie monnaie, une monnaie complémentaire locale qui s'appelle Le Lien et qui s'est lancée à Saint-Etienne il y a quelques semaines de ça maintenant. Et donc voilà, on va commencer par un entretien qui a été fait avec eux et puis après on va s'interroger sur la valeur, l'argent et tout ça. Voilà, allez, bonne écoute.
Alors, le lien est la monnaie citoyenne et complémentaire du bassin de vie stéphanois. Ce n'est pas une monnaie qui a pour but de remplacer l'euro, mais c'est une monnaie qui a pour but de relocaliser une partie de l'économie. C'est-à-dire que lorsque vous échangez vos euros en lien, ces liens resteront sur le territoire ligérien. Il sera en circulation dans un réseau de professionnels qui s'inscrivent dans une démarche éthique, qui s'inscrivent en faveur de l'écologie ou dans une démarche de réinsertion professionnelle ou qui agissent de manière générale pour le bienfait commun. Je suis Pauline Franco, salariée de l'association depuis le mois de juin. Mon rôle est de garantir une bonne circulation de cette monnaie.
Salut, moi je suis Philippe Pupier, je suis ouvrier agricole dans une ferme à Saint-Genelaire dans la Loire. Et j'ai du temps cet après-midi pour venir parler un peu de la monnaie. Et donc je suis un des cofondateurs de la démarche de la monnaie, puisque la monnaie c'est une démarche qui vise à faire réfléchir les gens autour de la consommation et autour de la monnaie, de l'argent, l'outil étant les billets qui circulent, dont Pauline vient de vous parler.
Ok, alors du coup, le lien, c'est une longue histoire dans le processus de création, mais là, c'est récemment que c'est palpable, c'est ça?
Ben effectivement, les billets sont tout neufs. Ils ont été dessinés par quelqu'un du CRU. C'est un projet qui demande beaucoup de réflexion, d'engagement, de maturation, de la souplesse, parce qu'on change souvent de décision, puisqu'on essaie de s'adapter, en fait. Hein. On essaie d'être souple. Et de fait, on a avancé par une somme de petits pas dans le passé, et puis on a fait le grand plongeon qui nous a permis de lancer la monnaie. Et puis là, pour le moment, ben, on nage doucement, mais on nage. Et c'est bon.
Et quel est le principe de fonctionnement concrètement?
Alors, le fonctionnement, d'une part, on a d'un côté l'association qui, elle, fonctionne avec un conseil collégial. Donc, on fonctionne d'une manière démocratique, basée sur le consensus. Et d'autre part, nous avons les professionnels donc, qui s'inscrivent dans cette fameuse démarche bon pour l'environnement et pour le bien commun. Ces professionnels, nous leur demandons donc, de correspondre à notre charte, puisqu'on essaye d'être cohérent au maximum. Et une fois qu'ils ont accepté, qu'ils font partie de notre réseau, une fois qu'ils participent à la circulation de la monnaie, ces professionnels sont référencés dans notre réseau éthique.
Ok. Du coup, il y a tout un réseau local. Après, il y a d'autres monnaies alternatives. Est-ce que c'est mon terme déjà, monnaie alternative ?
Pas complémentaire. Est-ce qu'il
y a d'autres monnaies complémentaires dans d'autres villes, un peu partout en France et ailleurs ? Mais est-ce qu'il y a aussi un réseau
Il y a plusieurs formes de monnaie. Ouais. Il peut y avoir des commerçants, comme à Villemontais, dans le Rouennais, qui décident entre eux de créer une monnaie pour attirer le client. Donc là, on n'est pas dans une démarche citoyenne, mais commerciale et éthique. Ça dépend de tout ce qu'on entend par éthique. Il y a des monnaies qui sont subsidiaires, c'est-à-dire qui sont du papier qu'on utilise pour échanger entre nous, mais qui ne sont pas adossées à l'euro, pas déclarées à la Banque de France, comme un petit monopoly entre plusieurs familles ou plusieurs groupes. Et après, il y a dans les monnaies complémentaires, il y a les monnaies qui sont reliées au réseau monnaie locale complémentaire citoyenne et les monnaies qui sont reliées au sol, comme vous avez entendu parler du sol violette, par exemple, où c'est un réseau de monnaies. Nous appartenons aux deux réseaux, dans le sens où nous sommes complémentaires et citoyennes et en billets. Et ça, c'est des exigences des MLCC, sachant que nous sommes la MLCC 42. Et le réseau sol, nous y adhérons aussi par choix, parce qu'ils ont une action institutionnelle au niveau de la gouvernance nationale, afin de faire évoluer les lois de façon à pouvoir permettre aux collectivités locales d'utiliser ces monnaies-là, afin de les faire circuler. Pour cela, il faut que le Trésor public l'accepte. À partir de là aussi, la deuxième vision du sol est de dématérialiser la monnaie. Nous, nous n'en sommes pas là. Nous sommes sur un billet papier pour le moment, des billets 1, 2, 5, 10, 15. Et dans un premier temps, nous en restons là, mais nous ne savons pas l'avenir, il ne nous appartient pas, comme la monnaie d'ailleurs ne nous appartient pas.
MLCC, monnaie locale complémentaire institutionnelle, c'est ça ? Ouais. Et du coup, localement, comment ça se passe en fait ?
Alors, comment ça se passe ? Déjà, d'une part, on a donc, l'association fait beaucoup d'actions de sensibilisation puisque le système monétaire n'a pas réellement l'habitude d'être mis en cause. On essaye donc de faire réfléchir les citoyens au rapport qu'ils ont à l'argent. Et une fois que ce citoyen a eu le déclic et se dit « moi aussi je peux agir à mon échelle et moi aussi je peux choisir quelle sorte d'économie j'ai envie », eh bien il se dirige vers nous et on lui demande d'adhérer à l'association. Une fois qu'il adhère à l'association, il devient utilisateur de la monnaie locale. Il peut alors échanger autant d'euros qu'il souhaite en liens. Avec ces liens, il peut ensuite les dépenser dans notre réseau de professionnels.
Ce qu'il faut voir dans cette monnaie, c'est qu'on a souvent des associations de défense des consommateurs, des associations de commerçants qui essayent d'attirer le consommateur. Alors que nous sommes ensemble, avec une certaine vision de la société et de l'argent en particulier et de la consommation aussi, qui permet de travailler dans la confiance. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas grugé, piégé par le commerçant, spolié voire. Et le commerçant, et nous on a un regard dans la monnaie locale sur le commerçant qui est vachement positif à comparer de la société de consommation dite classique.
Et du coup, c'est ce que vous essayez de défendre dans les animations, les activités auprès des, utilisateurs, c'est ça?
Oui.
C'est quoi les animations, enfin les animations ou les parcours de réflexion que vous mettez en place sur la question de l'argent et de la monnaie et du commerce?
Alors, on n'est pas contre l'économie, on n'est pas contre le commerce. C'est un outil qui nous permet de vivre. Si ça reste qu'un outil, c'est-à-dire qu'on remet les choses à leur place en fait. Hein, l'argent est un symbole pour exprimer un volume d'échange de biens ou de services. À partir de là, on se l'approprie en essayant d'être dans le système marchand, en excluant toutes les personnes qui sont cotées en bourse, toutes les chaînes nationales, tous les gens qui font de l'argent avec l'argent. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a 97% de la masse monétaire en circulation qui est faite avec la spéculation. Et tout le reste, c'est-à-dire tous les autres échanges, que ce soit les échanges quand on achète une maison ou sa baguette, tous les échanges quand on achète, un agriculteur achète du soja, etc. C'est tous ces échanges-là, dont les échanges interbancaires, ça représente que 3%. Mmh. Donc nous sommes une toute petite partie d'une grosse bulle qui nous mange la laine sur le dos. N'ayons pas peur de le dire. De fait, nous sommes que 3%. Hein, et la monnaie locale, elle représente rien non plus dans ce circuit-là. Pour autant, on essaye de faire avancer la chose de façon à ce que les gens prennent de la distance par rapport à ça. La monnaie étant donc un outil de consommation, on invite, nous, les professionnels qui accueillent cette monnaie, à être dans une démarche de progrès. C'est-à-dire qu'on est tous comme on est, avec tous nos limites. On a tous à progresser, qu'on soit qui qu'on soit. Et les commerçants, qui ont le mérite de se lancer dans le commerce, hein, faut reconnaître ça, c'est pas évident, hein, faut reconnaître, en leur nom propre, ils mettent des moments toutes leurs économies dedans, ils s'investissent, ils ont une petite rémunération, hein, il y a énormément de commerçants qui sont au RSA, hein, faut le savoir. Et donc, ces commerçants, nous, on a le désir de les mettre en avant à comparer des structures comme les grandes surfaces, qui sont là pour nous attirer. Aujourd'hui, on a besoin de ça, ben, ils vont nous vendre ça, ils vont nous créer d'autres besoins, ils vont nous vendre les nouveaux besoins demain. Nous, on essaye de travailler avec des gens qui sont sur la culture aussi, sur le travail sur soi, qui sont dans la consommation des besoins primaires. Donc, toute cette dynamique autour des commerçants leur demande une réflexion, puisqu'ils s'engagent, si, quel qu'ils soient, s'ils sont déjà avec des produits locaux, ben c'est très bien, sinon ils peuvent éventuellement prendre cette option des produits locaux. S'ils ne trient pas leurs déchets, ils peuvent effectivement rentrer dans la démarche de trier leurs déchets. S'ils n'ont pas de stagiaires ni de travailleurs handicapés, ils peuvent réfléchir éventuellement à prendre des stagiaires ou des travailleurs handicapés. Et s'ils ne sont pas engagés dans la société, dans une association nationale ou internationale, ou politiquement, hein, pourquoi pas, hein, quel que soit le parti politique, pour autant, hein, puisque ça ne nous appartient pas, les idées des gens, ils vont pouvoir dire, ben voilà, je veux m'engager plus pour un mieux-être, un mieux-vivre dans cette société. Donc on est dans une démarche de progrès de tous les gens qui s'inscrivent dans cette dynamique. Donc ça nous donne, en tant qu'utilisateurs, une confiance dans ces professionnels, puisqu'ils sont ils sont déjà pas liés à un système financier, mais seulement au système économique de proximité, et ils sont dans une démarche de progrès, comme nous tous, afin de faire évoluer la société vers une transition économique, écologique et citoyenne.
Ok. Alors, mais en fait, quand les adhérents, utilisateurs veulent avoir des liens, du coup, ils échangent de l'argent, de l'euro, contre des liens.
Exactement.
Alors, du coup, comment ça se passe? En fait, ils donnent de l'argent et vous à vous, et vous, vous en faites quoi?
Alors, les euros qu'on récupère, on les met dans une banque éthique, sur un compte en banque éthique, qui va nous servir comme fonds de garantie. En fin de compte, on n'est pas là pour mettre les professionnels dans une situation délicate. Lorsque les utilisateurs veulent utiliser donc leur nouvelle monnaie, le lien, ils nous donnent la somme correspondante en euros. Nous avons affaire à un échange de monnaie, mais ils repartent avec la même somme qu'ils souhaitent échanger à la base. Avec ces euros, nous mettons ces euros dans un livret, dans une banque éthique qui nous servira par la suite de fonds de garantie. Les professionnels, puisqu'ils peuvent rééchanger leurs liens en euros si jamais ils n'arrivent pas à les remettre dans le circuit, même si bien sûr ce n'est pas le but, ils peuvent tout de même les rééchanger en euros par la suite. C'est pourquoi ce fonds de garantie-là nous permet donc de pouvoir redonner les euros aux professionnels en échange de leurs liens.
Ouais, c'est bon, j'ai compris. Mais alors, il y a un truc que je n'ai pas trop compris. C'est quoi une banque éthique ?
Une banque éthique, c'est une banque coopérative. Enfin, en fait, il y a plein de banques qui se disent éthiques. Mais avec les enquêtes qui ont eu lieu sur les paradis fiscaux, il y en a plein qui avaient de l'argent dans les paradis fiscaux. Et il y en a trois qui sont plus blanches que les autres. Il y a La Poste, parce que c'est une nouvelle banque, ils n'ont pas eu le temps encore de profiter des paradis fiscaux. Il y a le Crédit Coopératif et la Nef. Crédit Coopératif, donc qui est dans toutes les villes, et la Nef, qui est une banque à moitié, puisque les particuliers n'ont pas encore le droit d'ouvrir des comptes courants. On a le droit d'avoir des livrets. Chose que nous avons à l'association qui met en place la circulation du lien. Et donc cet argent, comme le disait brillamment Pauline, va être déposé à la Nef. Et dans cette banque, nous avons la possibilité d'orienter, de flécher là où on voudrait que la banque investisse. Exemple, vous avez toutes les banques ont le droit de prêter 12 fois le capital qu'ils ont en dépôt. Ces dépôts vont pour certaines banques permettre de prêter 12 fois dans des entreprises qui ne sont pas dans notre éthique. Et avec la Nef et le Crédit Coopératif, pour ce qui est du Crédit Coopératif, ça sera des projets qui vont être sur Rhône-Alpes. Et pour ce qui est de la Nef, ça va être des projets fléchés par rapport à l'économie. Donc ça peut être dans l'économie sociale et solidaire ou dans l'écologie, par exemple. Et en mettant...
Forcément, ces domaines-là.
Non, ça peut être d'autres, mais c'est des exemples. Hein. En mettant notre argent dans des banques de ce type-là, on est sûr que la banque va prêter 12 fois la somme qu'il y a sur son dépôt vers des projets qui sont dans notre vision. Donc, quand vous êtes utilisateur de la monnaie, non seulement vous faites circuler la monnaie dans un circuit vertueux, mais vous savez que l'argent qui est déposé va servir pour développer des projets qui vont dans le même sens à laquelle vous pensez. Donc c'est doublement pertinent, c'est la double résonance, c'est une résonance quelque part de l'investissement qu'on peut avoir en investissant, en échangeant de l'euro contre du lien.
Oui, mais après, les banques, elles ne font pas ça gratuitement. Elles ne donnent pas pour le plaisir de donner.
Non, elles sont au même taux d'intérêt que les autres, mais on sait qu'elles ne vont pas aller, un, dans les paradis fiscaux, ouais. Deux, sur des entreprises comme Total ou des entreprises cotées en bourse. On sait qu'elles vont aller sur des projets individuels, voire collectifs, mais avec des orientations éthiques. Ça change tout au sens qu'on donne à notre monnaie.
Après, elles font aussi de l'argent sur de l'argent.
Non, elles ne font pas de l'argent sur l'argent. Elles font elles investissent effectivement sur des fonds, mais obligatoirement avec éthique. C'est-à-dire qu'elles n'investissent pas n'importe où pour gagner de l'argent. Un bateau de soja qui vient du Brésil est racheté au moins 12 fois entre son voyage au Brésil et l'Europe. Et donc, chaque fois, il prend une plus-value. Nos banques, elles ne vont pas acheter du soja pour faire la plus-value sur du soja de ce type, sur ce placement-là, par exemple.
Ouais.
C'est un exemple concret.
Ouais.
Hein, en achetant du pétrole pas cher et le revendant plus cher, voilà. Mais théoriquement, nos banques, elles ne vont pas faire ça.
Ouais, mais elles vont faire sur d'autres projets.
Oui, mais des projets éthiques. C'est-à-dire que le but de la banque, en fait, c'est la même chose, hein. On peut réfléchir aussi à ça. Dans le cadre des initiatives que vous prenez autour des systèmes bancaires, quel est son rôle en fait? C'est de stocker l'argent des dépôts des personnes et avec cet argent-là, pouvoir prêter. Donc, dans le système libéral, elle va pouvoir stocker et avoir plein de ruses pour pouvoir capter l'argent de tout le monde. Et elle va surtout pas, ou le moins possible, le prêter, parce que ça rapporte bien moins que de spéculer, puisque 97% de l'argent qui circule est, comme je vous le disais tout à l'heure, est lié à la spéculation. Donc, c'est pour ça qu'on a des problèmes, des freins par rapport aux prêts. Alors que les banques coopératives éthiques dont on vous parle, sont des banques qui vont jouer le jeu de prêter. Le crédit coopératif se donne comme loi, quand il fait de la spéculation éthique, de se faire un prélèvement, comme le demande l'association ATTAC depuis un certain nombre d'années. Et de fait, cet argent-là est reversé, non pas au profit des actionnaires, mais à la coopération.
Ok. Pour en revenir à la question de l'argent, il y a une parité, c'est ça, entre l'euro et le lien. En fait, un euro, un lien, n'a pas la même valeur pour un RSAiste, comme moi, ou comme pour monsieur Perdriau. Par exemple, une baguette, du coup, n'a pas la même valeur pour lui et pour moi. Et du coup, ça ne change rien. Que ce soit Perdriau qui utilise le lien ou moi, ça ne changera rien au rapport à la question de la valeur de la marchandise ou du service.
Alors non, peu importe le profil de la personne, sans faire de stigmatisation parce que ça ne sert à rien, il n'y a aucune différence. Hein, c'est un lien égale un euro et l'euro a la même valeur pour tout le monde. Après, ce n'est pas juste les bobos gauchistes qui vont utiliser la monnaie locale, bien sûr que non. La monnaie, l'argent en général reste quelque chose qui concerne tout type de population. Voilà, tout le monde peut se réapproprier la monnaie. Il ne faut pas qu'il y en a qui ne se sentent pas légitimes de se poser la question là-dessus. On est tous en train de se faire enfler par les banques et on a tous le moyen d'agir, que ce soit monsieur le maire ou la personne qui s'endette et qui a du mal à finir ses fins de mois. Justement, il y a juste à regarder à se promener dans la rue pour se rendre compte qu'il y a des tonnes et des tonnes de commerces de proximité qui sont en train de fermer, que les grandes surfaces ont toujours plus de chiffres d'affaires. Et il suffit de se demander qu'est-ce qu'on a envie. Est-ce qu'on a envie de sauver le candidat à la télé-réalité ou notre voisin qui est en train de s'endetter et qui n'arrive pas à vivre dignement? Est-ce qu'on a envie d'aller voter tous les 5 ans ou voter plus ou moins tous les jours pour la société qu'on veut avec de la monnaie locale? Ça, tout le monde est capable de se poser la question et tout le monde est légitime d'agir. Il n'y a pas de profil type de militant. Ça concerne tout le monde et la monnaie locale n'est pas quelque chose d'élitiste. C'est vraiment une réappropriation citoyenne. Il n'y a pas de profil type.
Pour autant, si je me permets de compléter ce brillant discours de Pauline, je dirais que nous sommes tous égaux devant le temps, et seulement devant le temps. Le reste, on ne sera jamais égaux. Mais quand vous achetez un produit avec votre monnaie locale, il y a une sublimation du produit qui se fait. Parce que vous savez que vous avez échangé cette monnaie, que, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, l'argent produit du fruit dans les projets éthiques, que vous allez encourager un petit commerçant qui vend un produit avec lui un engagement de progrès dans un des critères qu'on vous expliquait tout à l'heure. Donc on a un bonheur, et c'est important le bonheur, puisque avant l'argent c'est le sens de la vie, qui fait qu'en achetant ce produit-là avec la monnaie locale, on valorise, on donne un supplément d'âme au produit que nous achetons.
Mais alors du coup, je reviens sur la question du temps. Effectivement, on est tous égaux devant le temps. Sauf que par exemple, quelqu'un va dire un ouvrier agricole, le temps qu'il met dans son travail n'est pas rémunéré à la même hauteur, donc ne rapporte pas forcément le même nombre de liens que une je sais pas. Sans stigmatiser des métiers, mais des métiers qui font payer le temps à une autre somme. Du coup, en fait, c'est là où on voit l'inégalité et la question de la valeur. C'est la question de la valeur, si elle se rapporte que à une somme, elle crée des inégalités par rapport à notre statut professionnel ou nos activités, et non par rapport à notre temps et notre énergie et notre vie, en fait.
Tout à fait. Je vais vous donner un petit témoignage très court. J'étais responsable commercial dans une boîte où je gagnais beaucoup d'argent. Et à 40 ans, c'est la crise des quadras, paraît-il, j'ai remis en cause le sens de ma vie. Et j'ai diminué mon salaire par 2,8. J'étais plus heureux après qu'avant. Et donc, c'est pour ça que je parle de bonheur. Parce que si on a le sens des choses, on a le potentiel de lire cette notion de bonheur. Effectivement, j'ai diminué mon salaire. Mais comme je suis plus heureux, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Donc, la notion de gain est quelque chose de relatif.
Oui, mais alors, du coup, la question de... À partir du moment où la monnaie alternative, elle est sur une sorte de parité par rapport à l'euro et que par rapport à une somme, etc., elle ne remet pas en question la valeur. Alors qu'en fait, si on chercherait vraiment à bouleverser les choses, et la seule chose dans laquelle on est tous égaux, c'est le temps, du coup, en fait, la monnaie alternative devrait s'aligner sur le temps.
Alors, vous avez raison, ça ne serait pas une monnaie complémentaire citoyenne, ça serait une monnaie sociale, comme il en existe à Rouen, par exemple. Ça s'appelle le Noi, et cet échange est un échange temps. C'est-à-dire que tous les gens travaillent dans les différents ateliers et ils enregistrent tous un nombre d'heures qu'ils font. Et après, les biens produits par les différents ateliers sont échangés au prorata de la décision prise, ramenée à l'heure. Exemple, un jean, c'est 2 heures de travail dans n'importe quel atelier. Mmh. Un kilo de pommes de terre, c'est 1/2 heure de travail dans n'importe quel atelier. Et donc, il y a un échange entre tous ces gens-là. Mais c'est un autre système. Nous, on est dans la monnaie complémentaire citoyenne, on n'est pas dans la monnaie sociale. Okay. Pour autant, les deux ont un intérêt et sont complémentaires entre elles, si je peux me permettre. Mmh. Mais votre réflexion est tout à fait juste. La monnaie complémentaire n'est pas une fin en soi, c'est pas un aboutissement. C'est la somme des outils mis à disposition des citoyens qui veulent bien se l'approprier, qui doivent permettre de réaliser le bonheur, puisque on peut être heureux en vivant avec une monnaie sociale, et on peut amener du bonheur avec éventuellement la monnaie complémentaire et citoyenne. Par rapport à l'alternative dont vous parliez tout à l'heure, j'y viens. Nous ne sommes pas obligatoirement une monnaie alternative, mais nous le sommes peut-être. Ça dépend par rapport à quand on se positionne. Si on se positionne par rapport aux paradis fiscaux, au système des paradis fiscaux, au système de l'optimisation fiscale, au système du gain de la spéculation, oui, nous sommes alternatifs. Mais si nous nous mettons en phase avec les valeurs de la société que nous entendons parler de temps en temps par certains hommes politiques, que nos ancêtres nous ont transmis et celles que nous désirions vivre, qui sont les valeurs humanistes de la société. C'est le système que je vous ai décrit avant qui est alternatif. Mmh. C'est nous qui sommes dans la vérité. C'est eux qui sont une alternative au bonheur.
Mmh. On arrive un peu aux perspectives. C'est quoi les perspectives du lien ? Et c'est quoi aussi les limites que là vous commencez à voir, et voilà.
Alors, comme on parle de monnaie complémentaire, le lien n'arrivera jamais à remplacer l'euro. Il va juste bloquer une partie de l'économie sur un territoire. Ensuite, on est au courant que les utilisateurs ne pourront pas payer leur essence, leur électricité en monnaie locale. Peut-être dans une vingtaine d'années si ça se travaille, mais dans un premier temps c'est pas imaginable. Donc on sait très bien que ça n'ira pas plus loin que les échanges entre professionnels utilisateurs et professionnels fournisseurs, etc. Mais c'est ce qui est le plus important, en fait. C'est en fait, il faut qu'on travaille sur cette boucle-là pour qu'il y ait de plus en plus de secteurs d'activité, de plus en plus de professionnels qui s'inscrivent dans notre réseau. Après, reste à voir ce que les utilisateurs voudront en faire, puisque là, on est l'association. Certes, le projet part de l'association, mais chaque adhérent, chaque personne qui utilise le lien s'approprie aussi cette monnaie. C'est une monnaie qui doit nous ressembler à tous et c'est pas juste à l'image de l'association. Donc ça dépendra aussi de la dynamique que les personnes veulent bien mettre derrière.
Dans l'utilisation de la monnaie, tout à l'heure tu as bien dit qu'elle n'était pas limitée aux militants gauchistes, bobos, etc. etc.
Oui.
Parce qu'effectivement, c'est un peu la caricature de
l'utilisateur. Oui, ça colle à la peau, ouais.
Et, mais du coup, qui sont les utilisateurs et même aussi, mais ça, la question elle sera aussi par rapport aux professionnels. C'est quoi les secteurs d'activité des professionnels qui acceptent les liens et c'est quoi les envies, en fait? Est-ce que il y a des secteurs d'activité, par exemple, que vous aimeriez bien rencontrer des professionnels qui rentre dans l'éthique de l'association, c'est quoi vos...
Eh ben, il n'y a pas de profil type, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est autant quelqu'un qui a l'habitude de manger bio, d'aller rencontrer les producteurs, qu'une mère au foyer, qu'un étudiant. Enfin, voilà, il n'y a pas de tranche d'âge, il n'y a pas de secteur de métier, il n'y a pas de catégorisation là-dessus. Dans un premier temps, bien sûr, on touche les personnes qui sont déjà sensibilisées. Mais quand on regarde bien au fil des mois, on se rend compte que non, il y a de plus en plus de personnes de tous bords qui commencent à s'intéresser à ça. Ensuite, dans les pros, bien sûr, comme là on commence, il y aura toujours ce noyau de professionnels qui sont dans cette démarche-là. Ensuite, nous, notre but, c'est de toucher tous les secteurs d'activité. Donc, on a l'agriculture, les biocoop, la coiffure, la boulangerie, la médecine alternative. On a la librairie, on a plein de choses, puisqu'il faut aussi proposer aux utilisateurs des achats de la vie quotidienne et tous les secteurs d'activité. On a aussi le numérique, on a des musiciens, enfin, des photographes, et voilà, chacun a le droit de s'engager. C'est pas avoir l'étiquette bio ou locale. Non, on ne raisonne pas comme ça. C'est chacun à son... On demande à chaque professionnel, à son échelle, de s'inscrire comme il peut, comme il veut, par rapport à notre charte. Après, bien sûr, nous, on reste cohérents jusqu'au bout, mais chacun peut agir comme il l'entend, tant qu'il respecte nos valeurs.
Je voudrais juste rajouter qu'on veut essayer, on voulait pas faire une monnaie de bobo, justement, pour faire de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre que des gens qui avaient une super éthique, etc., et dire les autres, vous n'êtes pas bons. Et en fait, on accueille tout le monde, malgré les critères dont on a parlé tout à l'heure, hein, hormis les critères pardon, dont on a parlé tout à l'heure, de façon à faire réfléchir les gens et à mettre en démarche de progrès pour que ce soit la société qui bouge. Sinon, on fait que de l'entre-soi. C'est pas mal en soi, je critique pas. Hein. Nous, on a une autre volonté, celle de faire bouger les gens en les sensibilisant, puisque la monnaie est un outil de sensibilisation, tout simplement.
Et cette sensibilisation, est-ce qu'elle dépasse le moment où les gens intègrent le réseau ou échangent des liens? Est-ce qu'il y a des suites? Est-ce que, par exemple, il y a un suivi des professionnels, des rencontres de gens qui utilisent l'utilisateur ou de professionnels utilisateurs, enfin, etc. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous faites et...
Oui, alors déjà d'une part, lorsque un professionnel souhaite participer à notre réseau, nous ce qu'on fait, c'est qu'on organise une commission d'agrément pour que toute l'association ait le même degré d'information. Ce n'est pas seulement quelques personnes qui déterminent toi tu rentres pas, toi on ne veut pas. C'est un groupe de personnes de l'association qui se réunit et qui discute. Quand il y a des situations délicates ou problématiques ou quand on ne sait pas quoi faire, on en discute ensemble. Donc ça déjà, je pense que c'est important à souligner. Ensuite, il y a plusieurs moments, plusieurs endroits où les utilisateurs peuvent nous retrouver. Il y a dans nos réunions mensuelles qui sont ouvertes, et il y a aussi lorsqu'on est présent sur des événements. Ou bien sûr, lorsqu'on est comptoir de liens. Comptoir de liens, c'est les endroits où on peut venir échanger nos euros en lien. Donc dès lors où un utilisateur n'a plus de lien en poche, eh ben, il vient nous voir et il nous fait part de son expérience et il nous dit aussi aller voir telle ou telle personne, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Mmh. Ou voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'association qui porte le projet, c'est tous les utilisateurs qui se l'approprient et qui essayent de le faire avancer.
Il faut savoir que les professionnels, c'est pas nous qui allons enquêter et les juger. C'est une auto-évaluation qu'ils font. Okay. Et après, c'est avec eux qu'on discute de la démarche de progrès.
Okay.
On n'est pas dans le jugement.
Mmh. Et du coup, vous avez des dates en tête de rendez-vous où les gens peuvent...
Alors, vous allez avoir la primeur. On a un nouveau comptoir de liens. Et on risque fort de faire l'inauguration du nouveau comptoir de liens. C'est Fermont-Cartier, qui se trouve derrière le stade Geoffroy-Guichard, entre le stade Geoffroy-Guichard et Moreno, et on va faire son inauguration. Et on va avoir des permanences sur les quartiers, dans des magasins, dans des boutiques, de façon à pouvoir créer du lien entre les personnes, avoir de nouveaux adhérents aussi, et faire de la pédagogie par rapport à notre démarche de lien. Et puis nous avons à voir peut-être, c'est en réflexion, des possibilités de faire des cadeaux de Noël en faisant des packs avec le lien. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc les personnes pourront peut-être, si l'association le décide, offrir une carte d'adhérent avec quelques liens, etc. C'est pour aussi, dans nos familles, dans nos amis, amener une réflexion par rapport à la consommation et par rapport à l'argent. Enfin, tout de suite en début 2007, nous aurons un grand événement qui sera une démarche pour nous permettre de vivre, puisqu'on a besoin un petit peu d'argent pour payer nos salariés, nos billets, etc. Et donc, on va faire une démarche de demande de dons à travers un financement participatif et une contrepartie qui sera festive.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé et qu'il vous semble important de préciser
Alors, si vous êtes dans le coin et que vous êtes soucieux de savoir où est-ce que va votre argent, eh ben, nous vous invitons à aller sur notre site internet, ouais. www.lelien42.org. Nous avons aussi une page Facebook régulièrement mise à jour. Monnaie locale de Saint-Étienne, le lien. Et voilà, sur notre site, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Et puis, ou sinon, vous passez dans notre local, au 15 rue Robert de Saint-Étienne, proche de la place Jean Jaurès, où il y a toujours quelqu'un de l'association pour vous accueillir, pour répondre à vos questions et pourquoi pas échanger vos euros en lien.
Le lien, c'est redonner du crédit à la monnaie. À bientôt.
C'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est la monnaie qui dirige la terre. monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Benji, Benji, prends le Mikey, madame, Mikey, madame, non, je ne viens pas gollerie seulement, DJ, être à lui parler de ce fléau qu'on appelle la monnaie, cette chose pourrie, les esprits, puis petit à petit, voilà que la déprime sévit sans répit. Mais dit, pas de panique, même si la situation est critique, pas de mathématiques, si ça pas de Patrick, tout s'explique. L'argent a pris le monopole dans la société, plus personne ne peut l'arrêter, plus personne ne peut le contrôler, plus moyen de survivre, c'est une âme de briques.
Ben voilà, obligé un medley pour mettre quelques morceaux qui parlent d'argent, il y en a plein, et voilà, donc l'idée c'était de faire un medley. Bref, voilà, c'était l'interview du coup de deux personnes acteurs du lien, la monnaie locale et complémentaire. Alors, ben, effectivement, sublimation du produit, sublimation du bonheur par la consommation, spéculation éthique, banque éthique, bref, courage commercial, bref, tous ces termes qui ont été abordés, ben, si vous écoutez un peu régulièrement Joie, Rage et Courage, c'est des choses qui nous parlent pas forcément, et vous avez peut-être entendu nos doutes et nos questionnements un peu dans l'interview. En fait, du coup, ce que ça interroge, cette question de la monnaie complémentaire, ça interroge la question de la valeur, c'est-à-dire de qu'est-ce que tout ça signifie. Et en fait, en cherchant un peu, eh ben, on a trouvé des petits textes qui parlent un peu de la valeur et cette question de l'argent. Du coup, ça c'est un petit texte, j'ai essayé de résumer un petit texte trouvé sur un site de vulgarisation du marxisme qui s'appelle Tankil, qu'on mettra en lien sur le site de l'émission Joie, Rage et Courage. Bref, dans ce petit texte, il parle de la question de la valeur. À force de regarder un peu trop BFM TV, on pourrait se dire que si un objet a une certaine valeur et que l'on est prêt à payer un certain prix pour l'avoir, c'est parce qu'on en a besoin. En tout cas, c'est l'idée que défendent les capitalistes. Pour eux, si je meurs de soif dans le désert et que je rencontre la seule personne qui a de l'eau à plusieurs kilomètres à la ronde, je suis prêt à payer très cher pour le premier verre d'eau qu'il me vend. Au fur et à mesure que ma soif s'étanchera, je serai prêt à payer de moins en moins cher pour ces verres d'eau. Cette idée appelée « utilité marginale » est théoriquement vraie, mais n'a en réalité quasiment jamais lieu. En effet, il nous arrive assez rarement de nous perdre dans le désert. Bon. Et lorsque cela arrive, bon, on ne sait jamais, il est encore plus rare qu'un sale chien tente de nous vendre de l'eau au prix de l'or. En général, lorsque l'on a soif, notre problème est plutôt de savoir ce qu'on va choisir de boire entre du Cacolac, de la Vichy Célestin ou du Selecto. Bien qu'il puisse y avoir certaines variations dans les prix d'une marchandise, toutes ces marchandises ont globalement une valeur, un axe de valeur, une fourchette de prix, quoi. En réalité, le prix n'est qu'une forme particulière que prend cette valeur lorsqu'elle est mise en vente. Une forme où la valeur est traduite en euros ou en dollars. Alors, c'est quoi cette valeur? C'est quoi cette valeur? Bien sûr, si une marchandise vaut quelque chose, c'est également parce qu'on a intérêt à l'utiliser. C'est avant tout pour se servir d'un bien qu'on décide de l'acheter. Mais cette valeur d'usage n'est pas quantifiable et n'intéresse pas le capitalisme. En effet, difficile de savoir combien vaut le délicat et désaltérant goût chocolaté d'un cacolac un soir d'été. Et d'ailleurs, le patron n'en a rien à foutre, produire du cacolac, des dragibus ou du quinoa bio ne change rien du moment qu'il parvient à le vendre à un prix qui lui permet de retirer suffisamment de profit. Car donc c'est ça le capitalisme. Pour le capitalisme donc, seule la valeur d'échange existe. Et c'est donc dans l'échange que l'on voit apparaître cette valeur. Normalement, on se pose la question de savoir combien vaut une canette de cacolac, uniquement lorsqu'on veut l'acheter ou la vendre. Sauf qu'avec le système capitaliste, on est sûr de pouvoir échanger sa canette à presque n'importe quel moment. Même si l'on ne souhaite pas vendre sa canette de Cacolac, on sait combien elle vaut. La valeur devient permanente. On ne parle plus de valeur d'échange, mais de valeur, tout court. Elle devient autonome de l'achat ou de la vente des marchandises. C'est d'ailleurs l'existence de cette valeur qui nous permet de regrouper des objets pour différents, aussi différents qu'un kilo de riz, un iPad Air ou un litre d'eau du robinet, sous la même appellation de marchandise. Car c'est la quantité de valeur contenue dans ces biens qui permet de les comparer entre eux. Mais si ce n'est pas ni l'utilité, ni la rareté, ni le principe de l'offre et de la demande qui donne cette valeur à une marchandise, d'où elle vient ? Alors, les sources de la valeur sont plusieurs. D'abord, il y a le travail des ouvriers, que le patron a payé sous forme de salaire à ses employés pour acheter leur force de travail. Il y a la plus-value. Alors ça, la plus-value, c'est la part de travail des ouvriers que le patron n'a pas payé, mais qu'il s'approprie pour faire son profit. En gros, c'est ce que vaut les choses à l'arrivée dans l'usine et combien ils la vendent à la sortie. C'est la différence. Donc, ce qui vient à l'entrée de l'usine, c'est les matières premières, qui ont une valeur, mais parce qu'il a fallu qu'un certain nombre de personnes vendent leur force de travail pour les produire. Pas d'acier sans le travail du mineur et extrayant du charbon et du fer. Ça, on connaît cette histoire à Saint-Thé. Ni dans celui de l'ouvrier sidérurgiste faisant fondre l'un avec l'autre, à chacun de ces niveaux de production, divers patrons ont également récupéré une certaine plus-value. Les machines et l'électricité, qui ont également une certaine valeur, mais parce qu'il y a également fallu que des prolos vendent leur force de travail pour les fabriquer, pas de machines sans employés pour les monter et les entretenir. Ni électricité, ni personne, si personne ne fabrique et ne surveille les réacteurs des centrales nucléaires ou autres. Là aussi, à chacun des niveaux de production, divers patrons ont également récupéré une certaine plus-value. On constate que pour ce capitaliste, le coût de production est en réalité la somme des salaires qui ont été nécessaires pour produire une marchandise auquel il faut ajouter la somme des plus-values que les patrons récupèrent pour leur profit. C'est donc en réalité l'ensemble du travail passé qui a été nécessaire pour produire des matières premières et les machines, ainsi que le boulot actuel qu'ils utilisent pour donner une nouvelle marchandise, qui donne de la valeur à une canne de coca, de Cacolac. Enfin bref, tout ça pour confirmer la révélation tonitruante suivante, toute la valeur vient du travail. Vous allez me dire, et alors, ça me fait une belle jambe, sauf que c'est justement là d'où viennent tous les problèmes du capitalisme. Il tente de faire baisser le travail nécessaire pour la production d'une marchandise, car il le considère comme un coût, alors que c'est seulement ce même travail qui peut produire la valeur nécessaire au développement du capital. La crise actuelle en est un parfait exemple. Donc voilà, ce texte, il est pour moi assez clair, il met en valeur la question de la valeur et notre spoliation à notre temps, en fait. Notre temps qu'on vend à un patron qui en tirera profit pour en tirer de la plus-value et produire des choses. Et en fait, cette question de la valeur aussi, ce que ça amène, c'est ce qui l'évalue, c'est-à-dire la somme et c'est-à-dire l'argent. Alors, sur ce même site Tankil, il y a un autre texte sous forme de BD qui revient sur cet argent ça on va le mettre on l'a mis en son et on va l'écouter maintenant. Écoutons voir ce petit montage. C'est parti.
Qu'est-ce que l'argent ? L'argent est partout. Pourtant, on en manque toujours. On a beau crier sur tous les tons.
De l'argent, il y en a !
Tout semble indiquer que tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais commençons par le commencement. D'où vient-il ? Au début, il y avait le troc. La question du troc, c'est d'avoir des choses équivalentes. Par exemple, un pain égale 3 œufs. Disons que j'ai des poules et j'ai un ami boulanger. On peut s'arranger pour les œufs et le pain. Et puis un type passe, il a du sel. Le pain de mon ami est fade, mes œufs aussi. Donc on lui échange pour 100 grammes de sel, moi 3 œufs et lui un pain. Donc 3 œufs égale un pain égale 100 grammes de sel. Le sel a des avantages. Il est facile à diviser et on en a tous besoin. C'est une des premières monnaies. Mais un autre équivalent, bien sûr, sera l'or.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait sort.
Oh, ça alors.
Dès l'Antiquité, on s'est mis à couper l'or en pièces, du même poids. C'était plus simple à compter et à échanger. Le poids des pièces était garanti par les autorités. Et hélas, déjà là. Pour résumer, la première forme de fric, c'est donc la monnaie marchandise, utilisable pour acheter des choses, mais valant aussi par elle-même. Comment en calculer la valeur ? La valeur des marchandises dépend de la somme de travail effectuée pour les obtenir. Bref, seule l'activité humaine est créatrice de richesses. Certains économistes bourgeois réfutent cette théorie. Ils disent que la valeur provient de la nécessité du produit. Qu'un verre d'eau dans le désert vaut donc super cher. Il s'agit de l'école marginaliste. Ces idiots auraient raison sur une île déserte. Dans une société, il y a une multiplicité d'échanges. On raisonne donc en termes de flux. Résumons-nous. La valeur, créée par le travail, est contenue dans les marchandises, or y compris. Mais la monnaie marchandise, l'or par exemple, a ce caractère double d'être à la fois moyen d'évaluer les autres marchandises et une marchandise spécifique. Le fait que la monnaie marchandise possède une valeur propre est sa meilleure garantie, plus que celle de l'État. Cependant, cette monnaie a de nombreuses limites. Par exemple, il n'y en a qu'une quantité limitée, et puis elle est compliquée à envoyer. Le banquier dispose de réserves. Il peut donc payer non pas en or, mais en or papier. Tant qu'on a confiance en lui. Crédit du latin, credere, croire.
Non!
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 Oui?
Oui?
Oui.
Vous pouvez m'accorder un prêt à 21%?
Oui.
Et m'endetter pendant 25 ans?
Oui.
Vous me prenez vraiment pour un con?
Oui.
Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui.
On l'aura compris, la création monétaire nécessite la confiance en l'émetteur. Voilà pourquoi, dès le début du 19e siècle, le privilège de l'émission de monnaie, papier, ne fut accordé qu'à quelques banques triées sur le volet. La Banque de France obtient ainsi le monopole de la création monétaire en 1808 pour Paris, et en 1848 pour toute la France. La seconde moitié du 19e siècle vit ces banques privilégiées occuper le sommet de la hiérarchie bancaire sous le nom de banque centrale. Si le 19e siècle fut le siècle de l'étalon d'or, le 20e en marqua la fin. De 1914 à 1971, on passa par étapes d'une logique de convertibilité immédiate de la monnaie en or à un autre système monétaire. Désormais, la contrepartie n'est plus de l'or, mais de la dette.
Ah, une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette.
Détaillons. Entre 1914 à 1945, deux guerres mondiales. Au terme de ces deux guerres, la réserve fédérale américaine possède l'essentiel de l'or mondial. En 1945, les accords de Bretton Woods actent le début du nouveau système monétaire international. Les monnaies sont convertibles en dollars. Le dollar est seul convertible en or. Durant cette période, les banques centrales acceptent les dollars comme si c'était de l'or et créent de la monnaie locale à concurrence des dollars reçus. En 1971, Nixon suspend la convertibilité, c'est la fin de l'étalon or et le début du change flottant.
Si le dollar n'est plus indexé sur l'or, il reste pour autant la monnaie de référence.
Logique, car toutes les grandes banques centrales en avaient plein leurs réserves. Elles étaient coincées. Reste à comprendre sur quoi désormais les monnaies sont basées. Ce n'est plus en dernier recours sur le métal jaune. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit les monnaies des banques centrales ? Sur quoi est basée leur valeur si ce n'est sur l'or, ou sur le sel, ou autre? Eh bien, des réserves en devises, essentiellement en dollars, mais aussi en euros, un peu en or tout de même. Et surtout les obligations de dette émises par les États. Car contrairement aux monnaies, les obligations sont censées rapporter un intérêt, même faible. Les bons du trésor privilégiés sont bien sûr ceux des États les plus riches. En effet, ceux-ci sont considérés comme les débiteurs les plus sûrs. Logique, car l'État tirant ses revenus des impôts, les pays les plus riches sont aussi ceux où le budget de l'État a le plus de chances d'être élevé. Pas question pourtant que les États ne remboursent pas leurs dettes. C'est tout l'enjeu de l'austérité aujourd'hui. Garantir que les États soient solvables et puissent rembourser les dettes sur lesquelles repose le système monétaire international. Et cette fois-ci, on ne parle pas de l'Argentine qui a fait faillite il y a 10 ans. On parle du monde. Les principales monnaies sont concernées. L'euro, le dollar. Pour cela, les capitalistes sont prêts à tout. Il en va de la survie même de cette société, de cette économie.
Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Je lui venais faire la quête, tous ses créanciers. Et pour fuir ces personnages qui le torturaient, un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit, mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Il se dit dans son sommeil, c'est la voix de ma conscience qui me poursuit et me surveille. Je vais à mon réveil rembourser ces braves amis qui m'ont fait confiance. Non plus jamais, je me le dis, je ne veux de crédit. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, allez. Il y fut, fut tout de go.
Pour payer la dette et sauver le capital, il faut puiser à la source de la création de valeur, c'est-à-dire nous. Nous, les prolos, qui apparemment sommes trop nombreux, trop bien payés. Il faut que la part de richesse qui va au prolo diminue au profit de la part qui va au capitaliste. Il s'agit de nous faire trimer plus pour moins cher. Il en va de la survie du système capitaliste. Mais nous n'avons rien à gagner à cette survie. Certains refusent de penser la fin du capitalisme, préfèrent l'aménager, le gérer différemment. Nous, nous leur disons que nous ne voulons pas négocier les modalités de notre écrasement, mais vaincre. D'autres veulent introduire des monnaies locales alternatives. À tous, nous répondons. Face au capital en crise, l'organisation collective, révolutionnaire, de la gratuité est une arme contre le pouvoir que procure l'argent. Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Et c'est ce qu'il fit. À l'oiseau, le coup, il tordit. Et le lendemain, dans tous les magasins, il fit des dettes, une, deux, il fit des dettes, ah ah, c'est mieux. Puis un soir, devenu vieux, très vieux, il mourut, couvert de dettes.
Oh. Et bah ouais, et voilà, mourons couvert de dettes, comme dirait Charles Trenet. Bref, vous avez vu dans ce texte, Tanquil revient en fait sur la création de monnaie alternative et à la fin amène une critique sur un réformisme que porterait ce genre d'initiative et un réformisme qui en fait ne fait que faire fonctionner le capitalisme comme il nous exploite. Bref, en fait, c'est une question, ça ramène la question de l'alternative, des limites de l'alternative, et est-ce que l'alternative ne fait pas qu'entretenir un état des choses et un état de domination qui nous faut en fait que renverser. Eh ben, on pourrait consacrer un grand nombre d'émissions de radio Joie, Rage et Courage sur ce sujet. En tout cas, nous, à Joie, Rage et Courage, on peut conclure seulement par en disant que l'argent ne se mange pas, mais les bourgeois, si. Allez, un petit sample.
que tu fais dans le coin?
J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir, pour prendre du plaisir à leur griller les poings sous les bras. Pour pendre les propriétaires et couper les curés en deux, je vais aiguiser ma dialectique sur des situations bandantes.
As-tu résolu la question de l'organisation?
Après, les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion généralisée.
Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avant ça?
Eh bien, trouver quelque chose qui y ressemble. On ne combat pas l'aliénation par des moyens aliénés. T'en fais pas. Ça ira.
C'est le dialecticien. Tu viens pas voir les camarades?
Petit gars, je voudrais que tu dises à tous les camarades, ce qui se perd en contestation partielle rejoint la fonction répressive du vieux monde, t'oublieras pas? Il faudrait aussi une insurrection dans les pays capitalistes. Tous les pouvoirs se renforcent.
Il faut donc détruire tous les pouvoirs.
Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose.
Et voilà, joie, rage et courage se termine là pour cette première émission de notre saison 2. Un grand merci aux deux acteurs du lien qui nous ont accueillis au début du mois pour cet entretien. Vous pourrez retrouver le lien vers le site internet du lien sur notre blog Joie, Rage et Courage, ainsi que les différents textes et du collectif Tranquille. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail clapclap@riseup.net. Et puis on se quittera pas sans rappeler que ce week-end au Méliès, à la Cinémathèque et à la Gueule Noire, il y aura 3 jours d'anniversaire pour Radio Audio 89.5 Ma Gueule. Bref, voilà, on vous attend nombreux et nombreuses, on vous attend avec joie, rage et courage. Allez, ciao, rendez-vous le mois prochain, ce sera le 28 novembre, avec la forme et tout ça. Allons chercher le bonheur et la révolution. Ou allez, à bientôt dans la rue.